Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
David Denery, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je suis ravi de vous recevoir dans les aventuriers de l'étrange, juste après Jacques Duquesne, avec qui je viens de passer cette première heure pour parler de Judas et de son bouquin très très intéressant. Judas, le deuxième jour, je le rappelle, pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de le noter aux éditions Plomb. David Denery, vous êtes directeur de publication d'un magazine qui sort tous les deux mois, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est un bimestriel.
Voilà, un bimestriel qui s'intitule Nexus. Alors, Nexus, en dessous, édition française. C'est un magazine qui est dont la base est dans notre grand sud, on peut le dire.
Ah oui, dans l'hémisphère sud, directement chez nos voisins de juste sous nos pieds, ouais. À l'opposé de nous, de l'autre côté de la planète, en Australie. Mmh. Alors, un magazine australien à l'origine.
Racontez-nous justement cette histoire et puis qu'est-ce qui a fait que d'Australie, Nexus est venu implanter comme ça son petit frère français.
Oh bah écoutez, c'est l'occasion fait le larron. Vraiment, c'est le plus grand des hasards. Un ami nous a apporté cette revue qui évidemment n'était pas distribuée en France.
Ouais. Et en anglais, j'imagine, revue.
En anglais, oui. Tout à fait. Et quelques-uns d'entre nous, quelques amis qui savions lire l'anglais, y avons trouvé là vraiment l'expression de quelque chose qui nous semblait manquer en termes d'informations dans le paysage français.
Ouais. Alors justement, quelle est la ligne éditoriale de Nexus? Qu'est-ce qui vous a plu justement?
Ce qui nous a plu, c'est surtout que c'est quelque chose de véritablement alternatif dans la mesure où on prend le contre-pied d'une époque où les moyens de communication n'ayant jamais été aussi nombreux et développés. Doit pourtant faire face à un espèce de nivellement, quoi. On n'a jamais eu autant de médias, mais finalement ils donnent tous les mêmes sons de cloche, donc
c'est un peu la pensée unique, quoi.
C'est un peu la pensée unique, oui, il faut bien le dire. Donc Nexus, c'est pas des sujets privilégiés, il n'y a pas de chasse gardée, mais effectivement une approche la plus rigoureuse possible, en plus la plus rationnelle possible, raisonnable, de sujets qui sont boudés, voire déniés, parce que souvent inexpliqués ou présentant des anomalies par les autres médias.
Mmh. Mais vous ne plongez pas quand même dans le contre-pied systématique, même si vous êtes au fond de vous-même d'accord avec ce qui est dit.
Ah non, c'est pas le but. Non, les choses qui font le savoir commun autour de l'information générale, effectivement, c'est pas notre ligne éditoriale, mais on prend pas systématiquement, on cherche pas la petite bête. Non, mais il y a des choses qui nous sont apparues, il y a des thèmes quand même assez criants. Par le silence assourdissant qui est celui des médias les plus de masse les concernant, quoi.
Ouais. Par exemple, quels sont les sujets que vous, avant de passer au sommaire de celui qui vient de sortir, quels sont les sujets sur lesquels vous aimez travailler au sein de votre rédaction?
Oh bah là, il y a des sujets assez récurrents qui sont ceux de la santé, qui sont ceux de la géopolitique, parce que il y a des en particulier, je sais pas, je pense évidemment à un événement majeur, il y a eu l'avant et l'après le 11 septembre évidemment.
Bien sûr.
Et puis il y a l'ufologie parce que le thème de l'existence ou non d'une intelligence autre dans l'univers que l'intelligence humaine est d'après nous un thème absolument crucial et fondateur. Et qu'il est malheureusement complètement, il a été longtemps, il y a toute une guerre même de l'information autour de ce sujet. À tel point qui donne la vraie mesure des enjeux qu'il recoupe.
Alors, on va en parler puisque vous consacrez un très gros dossier dans ce numéro de Nexus qui fait la une d'ailleurs. Le titre, c'est Présence extraterrestre. Donc question assez forte et franchement audacieuse. Donc on verra quels sont les intervenants que vous avez rencontrés et interviewés, j'imagine, pour ce numéro.
Oui, je vous répondrai le plus clairement possible. C'est pas moi qui suis l'auteur de ce dossier, mais ma fois, j'y ai travaillé également quand même.
Oui, d'accord. Alors, d'autres sujets également, et là on retrouve effectivement des sujets sur la santé qu'on ne va pas aborder parce que c'est pas forcément le thème des aventuriers de l'étrange, mais par exemple, sujet sur la santé, un article concernant le cancer, concernant également un système de détection de certaines anomalies à travers une imagerie qui s'appelle l'imagerie GDV, hein, c'est ça?
Oui, l'imagerie GDV, ben nos voisins russes sont de façon bien avancée ouais. Apparemment autour de cette nouvelle façon de poser des diagnostics autour de l'énergie un petit peu subtile qui est celle de notre organisme.
Ouais, et ça ressemble un petit peu pour le principe
à la photo-Kirlian.
À la photo-Kirlian, voilà c'est ça.
Qui est beaucoup plus connue et ouais. Les plaques sensibles ont été remplacées par une caméra électronique et un système électronique. Mais le principe est le même.
Ouais, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais pour l'heure, nous allons continuer un petit peu à dérouler l'historique de Nexus. Nexus, édition française, existe depuis combien de temps ?
Nexus existe depuis 8 ans, depuis 1999 en France,
ouais.
Et depuis 1983 en Australie.
Ouais. Et vous avez des rapports étroits quand même avec le grand frère australien ?
Cordiaux
oui.
et certainement étroit étant donné le décalage horaire on se parle pas aussi souvent qu'on voudrait mais très cordiaux oui.
Et c'est la même ligne éditoriale en ce qui concerne le Nexus australien ou ça diffère un peu?
Ça diffère légèrement parce qu'on doit s'adapter quand même à un public français qui n'est pas le processus discursif des lecteurs n'est pas le même
dans
le monde anglophone et dans le monde français. Et de ce point de vue, l'esprit critique bien connu de nos compatriotes nous force peut-être à un petit peu plus de rigueur dans l'information et de compléter la version originale.
Ouais. Vous vous portez bien, ça va, vous réussissez à en vivre, à trouver votre créneau, comme l'on dit en termes commerciaux.
Ouais, je crois que sur le marché, ça va à peu près, ça va même plutôt pas mal. On est passé d'un tirage qui était très complètement confidentiel au démarrage à quelque chose qui est devenu moyen petit.
Ouais.
Donc en étant une entreprise complètement indépendante des gros groupes de presse, on n'est pas peu fiers. Je dois même dire que sur le marché, on fait figure un peu d'ovni. Hein,
c'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la presse, on le sait, hein, est en crise et se porte financièrement très mal. Mmh. Et nous, ma foi, malgré pourtant une position un petit peu particulière, puisque on a un statut fiscal, et on ne bénéficie pas des mêmes avantages que nos confrères. Du moins, on n'en bénéficie plus, puisque les avantages fiscaux qui sont accordés à la presse dans le cadre de ce qu'on appelle la commission paritaire, qui dépend du Premier ministre, nous a été retiré il y a 2 années du fait de nos articles, selon la commission paritaire, les agences de presse remettaient en cause l'innocuité des vaccins et par là même étaient susceptibles d'inquiéter les esprits les plus fragiles. Vous voyez. Bon, alors ça. C'est une censure à peine déguisée. C'est pas vraiment une censure, d'ailleurs. On peut pas dire que c'est une censure. On nous empêche pas de publier, mais en France, en tout cas, si notre ligne éditoriale est bien de parler des choses qui dérangent, il n'y a pas de doute.
Vous avez dérangé.
On a eu la reconnaissance qu'on méritait.
Mais cela dit, Nexus, on peut se le procurer en kiosque ou faut-il absolument passer par un système d'abonnement aller sur votre site internet?
Non, Nexus. C'est bien en kiosque et on est on est bien sur tout le territoire national, pas dans peut-être les plus petits d'entre eux, mais les points de vente presse essentiels nous distribuent.
Oui. Alors abordons maintenant le gros dossier de ce numéro donc de janvier-février, le numéro 54 quand même déjà. Les extraterrestres. Alors présence extraterrestre. Quelle est la grande ligne de ce dossier? C'est quoi? S'interroger sur une éventuelle présence extraterrestre parmi nous ou essayer de prouver qu'ils sont déjà là?
Non, je crois que la preuve de leur présence, elle n'est pour tout chercheur un petit peu rigoureux et honnête plus vraiment à faire. En tout cas, le phénomène des ovnis lui-même n'est plus à démontrer. Le CNES y consacre un département, GEPRA, le GEPAN, pardon.
Le GEPAN, oui, avec Jacques Patenet à sa tête, effectivement.
Jacques Patenet à Toulouse, que vous connaissez sûrement. Donc le phénomène ovni existe. Hein. Nos cieux sont survolés par des technologies qu'on ne peut pas expliquer.
Voilà. Enfin, on n'a pas encore la preuve formelle de l'existence tangible, tout à fait réelle, même si certains en ont la conviction, comme vous, on n'a pas la preuve formelle de l'existence de d'ovnis pilotés par une intelligence autre que la nôtre.
Non, on n'a pas une preuve matérielle, on n'a pas récupéré, du moins officiellement, quoi que ce soit. Mais les milliers de témoignages, les milliers de traces radars, de recoupements de témoignages de personnes dignes de foi établissent à coup sûr la réalité du phénomène en tant que phénomène intelligent, pas forcément extraterrestre. Mais en tout cas, de nature inconnue et d'origine inconnue et intelligent.
Ouais.
Voilà où on en est. Et lorsqu'on examine la position prise par les gouvernements et les autorités face à ce genre de phénomène, on se rend compte que les choses ne sont pas si transparentes qu'on pourrait avoir envie qu'elles le soient. Évidemment, sur un sujet, encore une fois, qui est très difficile à estimer et dont les implications sont telles qu'elles dépassent l'entendement, hein, et on est très vite submergé, on est très vite pris de vertige, car évidemment l'implication de visites extraterrestres auprès de l'humanité elles sont sans fin. Elles concernent nos origines, évidemment, ça remet en cause la question de nos origines, ça met en cause la question de notre histoire, des interventions éventuelles exogènes. Enfin bon, c'est tellement énorme que la première réaction du quidam moyen est d'être a priori de nier ce genre de questionnement, parce qu'il remet tellement en cause l'idée que nous avons nous-mêmes qu'il n'est pas confortable.
Comment avez-vous choisi tous les intervenants, ceux que vous avez interviewés pour constituer ce dossier? Parce que ils sont quasiment tous américains.
Oui, parce que c'est un phénomène, le phénomène OVNI a trouvé sur le théâtre américain une dimension qu'il n'a pas en Europe. Il y a des apparemment il se passe quelque chose aux États-Unis qui n'a pas lieu ailleurs. Peut-être est-ce dû au fait que les États-Unis se placent au premier rang des puissances mondiales, comme le leader évident de militairement en tout cas et économiquement sur la planète. Toujours est-il que c'est dans ce pays que par centaines, je dis bien par centaines, des témoins et des anciens membres ou même encore actuellement en service, membres de l'armée, de l'Air Force, des agents de renseignements diverses, des centaines de personnes affirment avoir eu affaire aux faits extraterrestres dans l'exercice de leur mission.
Il y a certains témoignages dans ce, enfin la majorité des témoignages ou des intervenants que vous avez interviewés pour ce dossier sont tous d'une part absolument persuadés que les extraterrestres, il y a eu déjà et il y a encore des contacts entre des extraterrestres, donc des entités venues d'ailleurs et l'humanité, enfin avec certains membres du gouvernement, de différents gouvernements. Est-ce que ça vous paraît pas un peu fou quand même comme affirmation?
Bah, ça peut paraître complètement fou quand on débarque dans le domaine, mais non, c'est pas absurde quand on regarde en tout cas les textes anciens même, hein, ou qu'on remonte aux traditions antiques. Le principe de la visite de nos cieux par des intelligences venues d'ailleurs ou des cieux ou d'autres dimensions, c'est courant. Donc, qu'aujourd'hui des contacts puissent avoir lieu, oui, ça peut paraître complètement fou, mais j'attire simplement votre attention sur cette un jugement un petit peu trop hâtif et puis une réaction émotionnelle qui est effectivement d'être désarçonné, et de réfléchir à quel point peut entrer en compte toute la production audiovisuelle de fiction et cinématographique en particulier et littéraire autour de la science-fiction qui a eu lieu depuis un demi-siècle voire un siècle, et on est forcément influencé par cette culture. Et de là, on se rend compte à quel point effectivement les choses, on peut être conditionné aussi à être ouvert à cette possibilité ou non.
Là, par exemple, vous citez le colonel Philippe Corso, qui a déclaré que les progrès technologiques réalisés ces dernières années, comme la fibre optique ou la puce électronique, proviennent des études réalisées sur des vaisseaux extraterrestres accidentés, retrouvés lors de certains crashs.
Oui, c'est une explication qui, effectivement, lorsqu'on regarde les progrès, l'évolution technologique des dernières décennies, c'est la courbe est exponentielle. En un siècle ou deux, l'humanité s'est affranchie de tellement de contraintes que c'en est véritablement spectaculaire. Qu'elle ait pu effectivement bénéficier d'un petit coup de pouce exogène, pourquoi pas.
Qu'est-ce que exactement, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, un whistleblower?
Un whistleblower.
Merci, whistleblower. Voilà. Excusez la prononciation.
Il y a effectivement, c'est une source majeure d'informations aujourd'hui sur le phénomène OVNI aux États-Unis. Et ce sont des vendeurs de mèches. C'est la traduction la plus proche.
Vendeurs de mèches, d'accord.
C'est ceux qui vendent la mèche. Et en même temps, il y a la notion d'insider. Excusez-moi, c'est encore un terme
anglophone. Infiltré, quoi, c'est ça?
Ce sont des vendeurs de mèches venus de l'intérieur.
D'accord, voilà. D'accord, ok.
Qui ont soit collaboré dans des services privés avec les agences officielles américaines, militaires, ou qui ont été directement des membres de l'armée, des agences de renseignement. Oui.
D'accord. Mais qui gardent l'anonymat, c'est ça, pour parler, ou comment ça se passe?
Alors, pour certains, oui, pour d'autres, non. On a plutôt donné la parole à ceux... c'est pas toujours le cas, effectivement, on a des personnes qui sont encore qui craignent pour leur sécurité, donc qui révèlent des choses sous le couvert de l'anonymat. On a des contacts étroits avec quand même les personnes qui recueillent leurs témoignages, vont quand même jusqu'à vérifier, faire un travail journalistique de vérification de leur identité, leurs accréditations, de leur biographie, de voir si tout ça se recoupe bien. En général, ils entretiennent des rapports assez longs avant de décider d'une publication. Donc voilà, effectivement, on n'est pas dans le 100% vérifiable, mais il y en a beaucoup d'entre eux qui témoignent à visage découvert. Lorsque je vous parlais de centaines de whistleblowers, sur plusieurs centaines, il y en a je dirais une dizaine ou une vingtaine qui sont certes ceux qui donnent des éléments les plus époustouflants sur ce que représentent les ovnis et leurs échanges et avec l'humanité, ils témoignent pour l'écrasante majorité à visage découvert, et on peut franchement leur accorder bonne foi, parce que c'est pas facile. Il y a aucune raison, lorsqu'on arrive à la retraite après une vie bien menée, de souhaiter se retrouver sous le feu des projecteurs avec un thème comme celui-là qui va vous apporter que des embêtements, quoi, hein, le ridicule, probablement de grosses difficultés dans vos relations personnelles ou en professionnel si vous en avez encore. D'autant plus que pour la plupart d'entre eux, ils sont encore tenus à un secret professionnel, de confidentialité, et que beaucoup d'entre eux donc affrontent à la fois ce risque du ridicule, d'être mis en cause, d'être un petit peu vertement menés, et en plus prennent le risque de faire face à des poursuites légales de la part de leur ministère respectif ou de l'État américain.
David Denery, on s'accorde une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer avec vous à découvrir ce dossier concernant l'éventuelle présence d'extraterrestres parmi nous. Nous sommes dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. À tout de suite.
À tout de suite.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Nexus, le numéro 54, est désormais disponible dans vos kiosques. C'est un magazine qui est réalisé dans notre Grand Sud, figurez-vous, dans le Lot pour être plus précis. Le numéro donc de janvier-février est dans vos kiosques pour la somme de 6,40€, avec un énorme dossier sur la présence d'extraterrestres parmi nous. David Denery, le directeur de publication, est en notre compagnie. Alors, David Denery, continuons un petit peu cette balade à travers ce dossier, et là vous citez un ancien ministre britannique, c'est ça ?
Canadien,
pardon, oui, c'est
si
vrai.
On pense à la même personne.
Oui. Un ancien ministre canadien qui affirme sans équivoque que la présence extraterrestre était une chose réelle. Il s'agit de Paul Hélier, c'est ça ? Ancien
oui,
ministre
ça.
De la Défense en plus.
Ancien ministre de la Défense, oui, dans les années 60. Qui affirme avoir été confronté à cette question lorsqu'il était effectivement en service actif en tant que ministre de la Défense. Il consacre, je dirais, sa retraite à tenter de sensibiliser l'opinion et les élus à la nécessité à la nécessité de révéler au public ce que les gouvernements nord-américains, pour le moins, savent de la question. Voilà.
Mais alors, à ce moment-là, après avoir, vous, en tant que témoin privilégié, est-ce que vous pouvez nous faire un état de la situation, alors ? De la présence d'extraterrestres ou de contact éventuel d'extraterrestres avec notre planète ?
La situation, alors là, si on devait vraiment faire
une sorte de synthèse géopolitique,
on en aurait pour des heures. Alors,
on a toute la vie.
Il y a un moyen simple, éventuellement, de le faire, c'est de se mettre dans la position d'un extraterrestre. Bon, d'une part, c'est de considérer que la probabilité pour que les milliards d'étoiles qu'abrite notre galaxie aient pu voir se développer une intelligence, voire une civilisation plus évoluée que la nôtre, au point de lui permettre de nous rendre visite, cette probabilité, elle est de 1 sur 1. Mathématiquement, elle est établie par scientifiquement, par les gens qui ont examiné. Bon, c'est très difficile, les paramètres sont pas tous très objectifs, mais étant donné le nombre d'étoiles que comporte notre galaxie, cette probabilité est quasiment de 100%. Alors, si vous vous mettez dans la peau d'un extraterrestre qui visite sa galaxie et qui aperçoit la Terre et se met dans l'idée de lui rendre une petite visite pour le moins touristique, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas à la fin de vos soucis, parce que tout engin extérieur aux territoires nationaux sont âprement défendus par les défenses aériennes, et vous allez pas forcément accepter ce genre d'accueil de bonne grâce et probablement choisir une autre destination touristique. Donc la situation, c'est d'une part, et c'est là où on comprend l'intérêt de la question extraterrestre et d'éventuels échanges avec d'autres intelligences, c'est que cela met en évidence la situation géopolitique de notre planète d'une façon encore plus, je dirais, en relief, avec encore plus de relief. Donc les visites extraterrestres apparemment ne sont pas récentes. On peut estimer
les premières. Vous voulez dire ont commencé.
Oui, les premières. Apparemment, l'existence d'intelligence extraterrestre est même complètement liée à l'histoire et à l'origine même de l'humanité. C'est là où le sujet est tellement, je dirais, hérétique, qu'il a beaucoup de mal à percer. Et où il est vertement et âprement, je dirais, manipulé, désinformé. Il est l'objet de toutes les attentions, évidemment. L'état des lieux que l'on peut faire, c'est probablement, effectivement, et même plus que probablement, l'existence de contacts avec des gouvernements pour le moins les plus puissants de la planète, ces dernières décennies.
Donc les États-Unis, l'URSS évidemment.
Absolument, l'URSS, les principaux gouvernements d'Europe très probablement également, en tout cas toutes les puissances nucléaires, ce qu'on dénote de façon assez évidente, c'est qu'il existe un lien entre la question nucléaire, de l'armement nucléaire, de la découverte de la bombe nucléaire et du développement de ces armements et le phénomène OVNI. Apparemment, ces visites sont directement liées très souvent à une problématique qui entoure l'armement nucléaire. Donc on peut comprendre qu'effectivement ces contacts et la raison de ces contacts tournent autour de cette question. Probablement que ce développement de l'arme nucléaire sur la planète a pu inquiéter d'autres intelligences que la nôtre. Voilà.
Alors dites-moi David Denery, pour avoir quelques précisions quand même, pourquoi à votre avis, parce qu'on parlera après du témoignage d'un certain Charles Hall, qui lui dit carrément, j'ai vécu 3 ans avec des grands blancs. On définira ce que c'est qu'un grand blanc tout à l'heure. Il a travaillé sur une base dans le Nevada. Alors, pourquoi est-ce que les différents États, puisque si je crois ce que vous en dites, l'URSS, les États-Unis, donc là il y a égalité des forces, on va dire, en quelque sorte, les principaux teneurs ou détenteurs de l'arme nucléaire ont eu des contacts ou ont peut-être encore des contacts avec des extraterrestres, pourquoi est-ce que ça reste sous silence ?
Ça reste sous silence parce que ça remet en cause tellement de choses. C'est très difficile à mesurer.
Si vous voulez il y a
d'abord la peur de la réaction du public, qui pourrait être une panique telle qu'on en a connu d'ailleurs à l'occasion de la fameuse émission d'Orson Welles, qui avait dans les années 50 fait une vraie fausse émission annonçant l'invasion des États-Unis et de la Terre par des extraterrestres, qui avait provoqué une panique.
Ça c'est un peu de la légende, parce qu'il n'y avait pas eu une si énorme panique que ça en fait.
Voilà.
Mais bon. Donc concernant, pourquoi à votre avis quelles seraient les raisons? Parce que après tout, si il y avait eu une concurrence de détention de technologie, là on aurait volontiers admis que les États-Unis, voulant avoir une technologie supérieure à celle du bloc de l'Est, évidemment, garde pour elle secret cette avancée technologique qui puisse lui donner un avantage sur l'autre. Mais là, si les principales nations ont des contacts ou ont eu des contacts, après tout, le révéler pourrait être quelque chose de ouvrir un boulevard vers le futur qui serait extraordinaire.
Oui, extraordinaire, mais en même temps extrêmement dangereux et déstabilisant. Ça touche à tout. C'est-à-dire le fait que nous soyons de nous considérer comme isolés sur notre planète ou de nous ouvrir à d'autres intelligences et à des échanges éventuels avec d'autres planètes, ça remet tout en cause. C'est même pas forcément souhaitable a priori.
Ouais.
Et c'est ce à quoi a dû se trouver confrontée l'autorité lorsqu'elle a été en contact avec cette réalité. Que faire d'intelligences qui vous visitent, qui sont apparemment largement plus évoluées que vous d'un point de vue technologique? Comment vous assurer de leurs intentions? Vous assurer qu'elles soient pacifiques? Essayer de déceler, parce qu'il y a forcément un intérêt, on peut douter qu'elle soit totalement désintéressée, même si elle est pacifique. Donc c'est bien là où on entre d'ailleurs de plein pied dans une nouvelle matière qui est en train de voir le jour, qui s'appelle l'exopolitique.
Oui, alors qu'est-ce que c'est que l'exopolitique, justement?
L'exopolitique, c'est une nouvelle façon d'aborder la question OVNI, qui n'est plus d'essayer de rechercher des traces absolument apportant la preuve de l'existence de vaisseaux OVNI, mais qui est de s'intéresser justement à toutes les implications que aurait la question de visite extraterrestre pour l'organisation de notre société.
Donc ça veut dire c'est l'exopolitique part du postulat que l'OVNI, le phénomène OVNI est acquis et que il y a eu des contacts extraterrestres avec des êtres humains, des dirigeants humains. Donc ça part de ce postulat, de cette base-là déjà.
Part du postulat que l'humanité existe au sein d'autres intelligences. Et qu'il va falloir qu'elle se gère au sein de ces intelligences.
Ah oui, c'est Men in Black, quoi, vraiment.
Ah bah oui. Oui.
Ah carrément, oui, d'accord.
Pourquoi pas, c'est
une hypothèse, mais bon. Et donc, à partir de là, on échafaude un système relationnel d'évolution dans un univers plus complexe, finalement.
Ben déjà, on part du principe de poser les bases de cette réflexion et déjà de la lancer parce que lorsqu'on est confronté à l'inconnu, il n'y a rien de plus paralysant et paniquant. Donc développer les bases de poser des bases pour que se puisse développer une réflexion, c'est son premier rôle et sinon le seul. En tout cas l'essentiel.
Oui.
Pour le reste, ça appartient un petit peu à nos élus et à nos dirigeants de faire avancer la question.
Oui. À votre avis, comme je suis assez, je n'ai jamais poussé l'hypothèse aussi loin que vous la poussez dans votre magazine. À votre avis, est-ce que des gens comme d'anciens présidents des États-Unis, je pense à Nixon, Gerald Ford, Bill Clinton, évidemment, plus proche de nous, Mitterrand, Jacques Chirac, ou encore Nicolas Sarkozy, ou encore Tony Blair, Helmut Kohl, par exemple, pour citer un Allemand, eux étaient au fait de toutes ces informations, selon vous?
Je pense que oui. Je pense pas qu'ils étaient totalement au fait et qu'ils avaient le détail et un tableau exact de la situation, mais ils étaient au fait de l'existence de ces échanges, de ces visites, absolument, oui.
Ouais. Ouais. Vous restez avec nous, David Donnery. Encore une pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler plus particulièrement du témoignage de Charles Hall que vous avez consigné dans ce dossier OVNI présence extraterrestre. Et c'est un whistleblower, c'est ça?
Oui,
j'ai réussi à le dire, c'est cool.
Okay.
Allez, une pause, à tout de suite.
À tout de suite.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Le magazine Nexus, à travers son directeur de la publication, est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Et là, pour le coup, je vous avoue que on s'aventure sur des sentiers extrêmement étranges, puisque vous allez très loin dans l'hypothèse, David Donnery, sans que ce soit un jugement de valeur sur plusieurs hypothèses. Je ne vous suis pas, parce que je trouve qu'on manque quand même de preuves tangibles. Mais il faut que ces hypothèses soient entendues et c'est normal que vous soyez invité dans mon émission. Donc vous avez cet espace qui vous est consacré ce soir pour que l'on puisse bien entendre ce que vous avez à dire et le comprendre. Après, le partager ou pas, libre à chacun de le décider, mais au moins vous entendre en toute sérénité. Alors David Donnery, Charles Hall est un whistleblower, c'est ça?
Oui.
Qui lui s'est déclaré, enfin je veux dire, on connaît son nom, donc lui, il a décidé de jeter bas le masque.
Oui, oui, c'est un de ceux qui effectivement témoigne à visage découvert et a même publié plusieurs livres sur la question. Oui.
Ouais. Alors, quel a été son discours? Parce que lui, son témoignage est assez confondant quand même.
Mais son discours, il est en tout cas de la part de quelqu'un de il vient de quelqu'un de crédible, hein, qui est quelqu'un qui a des états de service tout à fait sérieux au sein de l'US Air Force, qui a fait carrière, bon, et puis on peut vraiment se demander pourquoi quelqu'un comme lui décide tout à coup de révéler une chose aussi incroyable que celle qu'il révèle. Donc déjà d'emblée, effectivement, ça lui apporte un certain crédit. Et c'est ce qui nous a porté à nous faire le relais de son témoignage.
Ouais. Alors, il a été membre de l'US Air Force. Il a fait toute sa carrière, je crois.
Hein. Oui.
Et il était observateur météo, hein, pour l'US Air Force.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et il a travaillé sur des bases qualifiées de sensibles.
Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Selon lui, oui, il était sur la fameuse R51, la zone 51, mm-hmm. dans le Nevada.
Dans le désert du Nevada, oui, bien
voilà,
sûr.
Voilà, la fameuse zone de l'ufologie si bien connue. Mais si peu officielle, puisqu'elle n'a aucune existence officielle, en fait.
Tout à fait, ouais.
Alors que c'est quand même un territoire qui est grand comme la Suisse. Donc il a effectivement, dans cette région du Nevada, effectivement, il a passé 3 années où il a côtoyé des êtres en donnant vraiment énormément de détails sur leur façon de communiquer, de fonctionner, les différences entre eux et nous. Mmh. Et c'est, ma foi, fort intéressant.
Mmh. Quels sont les décrivez-nous un être tel, il les appelle, lui, les tall whites, c'est-à-dire les grands blancs, c'est ça?
Les grands blancs, oui. Alors c'est en tout cas toujours intéressant, même du point de vue onirique, j'ai envie de dire, de se confronter à ce genre de témoignage, parce que même si c'est sorti de son imagination, ça nous confronte à nous-mêmes de toute façon. C'est tout ce qui est différent, finalement, nous rappelle notre identité à nous et nous permet de mieux nous définir. Alors c'est marrant, c'est surtout je repense à cette histoire. Il est dépeint comme des êtres humanoïdes, plus grands que nous, plutôt plus de 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 20, qui sont blonds mais avec un teint bleuté, et qui ont apparemment une biologie assez proche de la nôtre, mais néanmoins différente. Et je garde surtout de cette interview ce détail lorsque ces êtres lui révèlent que pour eux c'est un grand étonnement de voir nos relations aux animaux, et que selon eux la plupart des intelligences dans la galaxie ne développent pas de relations aussi proches, et si ces intelligences, en tout cas, ne sont pour la plupart végétariennes, ouais, elles ne conçoivent pas de prendre des risques au contact d'animaux, et elles sont très admiratives de notre façon que nous avons de remettre notre vie entre les mains d'une relation, finalement, avec un animal, comme un cheval qui peut vous tuer d'un coup de sabot, ou avec un chien qui peut effectivement aussi vous faire très mal si d'aventure la relation devait mal se passer. Donc apparemment ils ont cette particularité aussi de ne pas bien se remettre leurs blessures, du moins pas aussi bien que nous. Ils nous regardent un petit peu comme des grosses brutes, hein. On joue au rugby, on est capable de jouer au rugby, de sortir d'une mêlée couvert de sang, et puis de s'en remettre en quelques jours. Alors que eux, ça serait vraiment pas le cas en ce qui les concerne. Et donc voilà, c'est ce genre de petits détails qui rend son récit, en tout cas, diablement crédible, parce qu'il y a des détails et des précisions qui soit sont l'œuvre d'une imagination très très fertile, mais c'est pas le cas de Charles Hall, justement. C'est un personnage qui est très discret, qui est plutôt réservé, et c'est pas quelqu'un qui est très volubile. Donc voilà, et puis au fil des années il s'est toujours bien recoupé dans ses témoignages. C'est toujours comme ça qu'on avance un petit peu aussi, par recoupement d'un whistleblower à l'autre, pour essayer d'établir l'authenticité des témoins.
Alors ce qui est surprenant, ce qui est encore plus surprenant dans son discours, parce que déjà son témoignage laisse quand même perplexe, pantois, il déclare également que bon, là les grands blancs c'était sur la base de Nellis, enfin là où il travaillait, lui, mais que sur l'R51, qui est extrêmement large, il y a d'autres bases, évidemment, et les petits gris, c'est-à-dire un autre type d'extraterrestres, étaient basés, eux, ailleurs.
Ben, c'est effectivement là une des informations qu'on a du mal à comprendre ou à bien recouper avec celles données par d'autres whistleblowers, pour lesquels effectivement plusieurs d'entre eux qualifient la base de l'R51 comme étant celle, la région dans laquelle se trouvent des bases de ce qu'on appelle les petits gris. Les petits gris, c'est l'extraterrestre standard, lambda, tel qu'on vous le décrit maintenant. C'est marrant parce que c'est devenu quelque chose de tout à fait commun.
C'est pour ça que ça me fait sourire.
Demander à quelqu'un de dessiner un extraterrestre, c'est marrant, les extraterrestres ils n'existent pas, mais n'importe qui peut vous en dessiner. Hein.
Oui.
Donc ça c'est une formidable prouesse, je trouve, psychologique, d'avoir une opinion publique aussi bien préparée aux faits extraterrestres, mais finalement aussi peu informée du fait.
Oui, mais à contrario, quand même, David Dennery, est-ce qu'on peut également prendre en compte l'hypothèse suivante, c'est que nous projetons notre imaginaire avec notre culture, avec ce qu'on sait de nous, puisque c'est ce qu'on connaît mieux, c'est notre société, sur ce que peut être des extraterrestres, et que forcément on les dessine avec une tête, deux bras, deux jambes, alors que s'il faut, ce sont, je dis ça en plaisantant, mais qu'à moitié, une boule gazeuse, ou tout simplement une espèce de plante très bizarroïde, ou tout simplement une amibe géante. Ça ne peut absolument pas ressembler à quelque chose d'anthropomorphe.
Absolument, et il paraît que c'est le cas.
C'est-à-dire ?
Il paraît que c'est bien le cas, et qu'il y a des formes extraterrestres aussi variées que le laisse deviner la multitude d'étoiles dans la voûte céleste. Et qu'effectivement, il y a des espèces plutôt à base végétale, d'autres à base d'amibes, comme vous venez de le dire. Il y a vraiment une énorme multitude. Je dirais presque que, vous savez, bon, c'est quelque chose qui touche à tout. La question que nous posons, nous, c'est que si la probabilité pour que des civilisations extraterrestres capables de nous visiter est de 100 sur 100, est de 1, autrement dit, effectivement, ce que confirment les milliers de témoignages, de mesures, de traces, radars, vidéos, films, photos et autres, ce que confirment des centaines de membres qui témoignent à visage découvert mettant en risque leur vie, leur réputation, etc. Alors, il faut quand même qu'il y ait bien des réponses. Hein, si cette probabilité est de 1 sur 1, ça veut dire qu'ils nous visitent, très très probablement qu'ils nous visitent. Alors pourquoi est-ce qu'effectivement on ne les voit pas ?
Vous prenez un raccourci quand même extrêmement audacieux et rapide, là, quand même, avoué.
Ben écoutez, non, c'est pas si rapide que ça quand même au regard des milliers de témoignages. Je vous signale que moi je suis très bien placé pour discuter avec les gens autour de moi, assez ouvertement de la question qui d'habitude fait peur à tout le monde parce que on vous ridiculise très vite. Et que de ce point de vue, à mon sens, c'est bien 3 personnes sur 5 qui me révèlent avoir été témoin d'un phénomène complètement inexplicable, probablement OVNI, en tout cas, dans leur vie. Il y a énormément de gens à qui c'est arrivé. Ce sont le phénomène est une réalité.
Oui. Enfin, le phénomène, en tout cas, est à étudier. Nous sommes au moins d'accord tous les deux sur ce point-là, parce qu'il y a dans certains cas, des éléments tangibles qui méritent que la science dite officielle se penche sérieusement, en tout cas, sur ce dossier pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Parlons d'autres témoignages qui sont pour le moins étonnants. Dites-nous qui est le sergent-major Robert Dean.
Alors Robert Dean, c'est quelqu'un de très étonnant, qui lui aussi témoigne à visage découvert,
hein, oui.
Et qui prend quelques risques. Qui était un officier rattaché au siège du commandement de l'OTAN à Paris, avant que à la fin des années 50 le général de Gaulle rompe les accords et que l'armée américaine quitte le territoire français, et qui donc ensuite a été basé à Bruxelles à ce moment-là et qui témoigne donc avoir eu entre les mains un rapport sur des événements OVNI qui avaient lieu sur l'Europe, à la frontière de l'Europe de l'Est, du bloc communiste, et qui a occasionné donc une enquête très très poussée de la part des services de renseignement américains, et Robert Dean a eu ce document de plusieurs centaines de pages entre les mains. Et là, sa vie a basculé. Parce que on ne ressort pas apparemment de ce genre de prise de conscience, qu'on est confronté effectivement à quelque chose qui nous dépasse totalement tant par les prouesses technologiques sa vie a basculé, quoi. Et du coup, Robert Dean est quelqu'un qui a passé sa vie à essayer d'en savoir plus, tout en continuant sa carrière. Mais qui a pu effectivement se faire une idée très précise de la question.
Alors, que contenait ce fameux rapport, justement ?
Ben, il contenait d'abord un état des lieux qui est un petit peu celui que je vous fais depuis tout à l'heure, à savoir que la planète est visitée par des intelligences extraterrestres depuis la plus haute antiquité.
Oui.
Que d'après ce rapport, cette étude-là, il dénombrait 4 types extraterrestres différents, dont certains très semblables à nous, si semblables à nous d'ailleurs que ce qui a inquiété d'ailleurs à l'époque, puisque c'est donc on était en 1965, en pleine guerre froide, ce qui a beaucoup inquiété les services de renseignement et l'état-major américain. De comprendre qu'il pouvait y avoir, vous pouvez parfaitement vous asseoir dans un train à côté d'un être qui pourtant n'est pas forcément d'origine terrestre, sans vous en rendre compte, et à tel point qu'il redoutait même de pouvoir en croiser dans les couloirs des quartiers de l'OTAN.
Ouais.
Donc ça posait cette difficulté. Voilà, c'est une étude qui effectivement établissait pour coup sûr la connaissance de ces visites extraterrestres, même si effectivement apparemment n'établissait pas de danger lié à ces visites. En tout cas, d'un point de vue militaire, ce n'était pas quelque chose de, ce n'était pas le cas.
Ouais. Et toujours, comme dans la plupart des cas, les témoins, enfin, n'ont que leurs paroles pour étayer leurs arguments ou ce qu'ils avancent.
Oui, ils n'ont que ça, effectivement. Mmh. Mais ils ont aussi ils ont aussi, d'abord, ils sont plusieurs, souvent. Ils se regroupent. Ils ont, et puis encore une fois, on comprend mal ce que cette parole peut leur rapporter. Au fil des décennies, on peut aussi facilement mesurer. Vous savez, la mythomanie, ça existe, mais c'est pas facile de tenir un discours sur le long terme. Mmh. Mais effectivement, nous n'avons que ça. Nous n'avons que leurs paroles et les recoupements que l'on peut faire. Entre les divers témoignages.
Mmh. David Denery, avant de faire une dernière pause, nous sommes au tout début de 2008. Quel serait votre souhait pour 2008 que vous aimeriez voir se réaliser dans ce cadre-là ?
Oh ben, dans ce cadre-là, ce qui pourrait arriver de mieux, c'est pas forcément que le contact avec une civilisation extraterrestre.
Pourquoi pas, ça pourrait être bien.
Ça pourrait être bien. Bah, je le redoute pas. Moi, je les appelle. Ils peuvent venir dans mon jardin là, quand ils veulent. Franchement, les bienvenus. Vous imaginez que
à l'heure de l'apéro et pas de souci.
Et puis que pour les ventes de Nexus, ça serait.
Oui, ce serait. Ah ouais, ça serait pas mal.
Ça serait pas mal.
J'avoue.
Mais ça serait pas forcément souhaitable parce que ce que je préférerais, c'est qu'il y ait un gouvernement, et ça commence à être le cas. Il y a de nombreux gouvernements brésiliens, mexicains, espagnols qui ont ouvert leurs archives et qui ont donné beaucoup d'informations ces dernières années. Et qu'on aille plus loin dans ce sens-là, je pense qu'un gouvernement puisse faire un peu sécession avec
faire son coming out quoi vraiment
et puis nous donne vraiment effectivement de l'info. Moi je crois que là on en a vraiment besoin et c'est ce que l'on peut souhaiter de mieux pour l'humanité. Parce que si demain des êtres avec des moyens extrêmement perfectionnés techniques établissaient un contact, vous savez, il y a un syndrome qui est le syndrome du cargo, comme on l'appelle, dans les îles Pacifiques, lorsque des indigènes ont vu arriver les GI américains pour installer des bases militaires en pleine guerre contre le Japon, ils en ont fait un culte, ils les ont pris pour des dieux, ils ont fait des statues en forme d'avion, en forme de cargo, et ils les ont vénérés pendant des décennies ensuite. Et je me dis que si des extraterrestres sont capables de franchir des dizaines d'années-lumière pour nous rendre visite, ils ont peut-être, et puisque nous on l'a ces technologies, et Céline Dion a fait un concert en duo avec Elvis Presley récemment, sur scène, on voyait Céline Dion avec Elvis Presley, c'était un hologramme.
Alors que ce
type de contact de la part d'intelligence beaucoup plus évoluée que la nôtre, technologiquement, voilà, je sais pas ce qui pourrait en advenir, mais le choc psychologique, le choc ontologique risque d'être tel que si par malheur ces visiteurs étaient un tant soit peu intéressés, ce que l'on peut, ma foi, estimer, on risque d'être les dindons de la farce, quoi.
Bien.
Voilà.
David Denery, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour aborder deux trois petits points, rapidement dans le sens, deux trois points qui sont dans le sommaire de Nexus de janvier-février. Si vous le voulez bien, à tout de suite.
Ok, à tout de suite.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
David Denery, directeur de publication de Nexus, le magazine qui est réalisé dans notre Grand Sud, dans le Lot exactement.
Non, en Dordogne.
En Dordogne, pardon. Oui, pourquoi vous êtes passé dans le Lot? Oui, c'est bizarre ça.
Je veux pas fâcher les gens du Lot, hein, on n'est pas loin. Hein, je les embrasse tous.
Non, puis c'est très beau aussi, de toute façon. Donc, vous êtes mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'Étrange et on a un petit peu passé en revue le gros dossier de Nexus de ces deux prochains mois, même si, encore une fois, je le dis, je ne partage pas toutes vos hypothèses, mais au moins c'est normal que vous puissiez les exprimer et après lisons et faisons-nous notre propre opinion. Contrairement à beaucoup de médias, je fais confiance à l'intelligence de ceux et celles qui me font le plaisir de m'écouter.
C'est exactement notre ligne éditoriale aussi, hein. On a pour habitude de dire on donne pas de vérité, mais on donne des faits et puis il y a des choses qui sont contradictoires et puis après faites-vous votre idée.
Voilà. Alors parlons de l'imagerie GDV, un petit peu plus en détail. C'est intéressant parce que c'est l'effet Kirlian, mais poussé un peu plus loin, j'ai l'impression, et puis dans un sens thérapeutique, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. C'est le même principe que l'effet Kirlian, hein, où l'effet Kirlian, c'était une plaque sensible contre lequel on place donc un organe, une plaque
oui,
isolante,
oui.
Hein, et on fait passer derrière cette plaque un courant électrique à très haut voltage. Et on note effectivement, ça permet de visualiser
une espèce de rayonnement comme ça qu'il y a autour de nous, enfin qui parcourt notre corps. En fait.
Exactement, une espèce de rayonnement diffus autour et ce qu'on appelle dans la mystique l'aura, hein, tout simplement.
Oui,
voilà,
oui.
C'est une façon. Mais bon, c'était un procédé qui n'était pas facile parce que c'est la même différence entre le numérique et l'argentique en photographie. Mm-hmm. L'imagerie GDV est un appareillage électronique qui permet sur un écran vidéo de visualiser la même chose.
Mmh. Et c'est vrai que certains thérapeutes russes s'en servent pour faire un diagnostic.
Bah oui, parce que même si ce qui est génial, c'est la technologie elle-même. Effectivement, elle est très facile à utiliser. Et puis ces chercheurs russes, ce chercheur Konstantin Korotkov en particulier, a développé tous les moyens informatiques. Il a utilisé les moyens d'aujourd'hui et a pu mettre en place un logiciel qui effectivement permet de tracer une carte énergétique du corps et en plus d'établir des diagnostics dans la mesure où sur cette empreinte énergétique apparaissent au préalable de longs mois, je dirais, avant l'apparition des symptômes et d'une maladie
physique, ouais, oui, vraiment,
on peut noter la faiblesse d'un organe, on peut voir effectivement ou la surcharge en termes d'énergie sur un organe ou au contraire les manques qu'il peut connaître.
Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça a l'air tout à fait intéressant. Pas de Français à ma connaissance, hein, utilise ce genre de moyens, ce moyen pour établir un diagnostic. Je crois que en France, ça n'existe pas.
Non, effectivement. Je pense que ça existe sûrement, mais vous savez, en France, on est dans un drôle de pays où le système médical, c'est pas la chose dont je sois personnellement la plus fière. Vous savez, on a hérité d'une époque bien plus sombre de l'occupation un ordre médical, un ordre des médecins qui se comporte un petit peu quand même comme un saint inquisiteur et il fait pas bon quand on est médecin obtenir une mauvaise note quoi. Voilà, c'est un peu la difficulté. Il y a sûrement des médecins, je pense, nous on en a pas trouvé, mais il y a sûrement des médecins qui peuvent utiliser surtout des acupuncteurs parce que c'est basé sur les mêmes principes. Il y a des médecins acupuncteurs, je serais très étonné qu'il y en ait pas quelques-uns quand même qui se soient équipés.
Alors rapidement pour conclure, il nous reste deux petites minutes. Il y a toute une bibliographie dans votre magazine qui conseille toute une série de livres d'un peu tout azimut, hein, ce qui se retrouve évidemment dans Nexus. Alors je rappelle que c'est le numéro janvier-février, le numéro 54, qui est disponible dans les kiosques. Rapidement, David Denery, quels sont les prochains gros dossiers sur lesquels vous êtes en train peut-être déjà de travailler?
Alors oui, on est oui, on est déjà en train de travailler sur les prochains, évidemment.
Ouais.
On a plusieurs choses sous le coude. On ne sait pas encore trop ce qui va voir le jour. C'est peut-être encore un petit peu tôt.
Un petit peu tôt pour le dire.
Mais ouais. on va quand même regarder d'un peu plus près la question du réchauffement climatique.
Très important.
Parce
ouais.
que c'est quelque chose. Nous, on est des écolos, je dirais, dans l'âme depuis des décennies. Et puis tout à coup, là, depuis un an, tout le monde est devenu écologique. Et puis on voit se profiler devant nous des hypothèses qui sont pas si scientifiques que ça finalement.
Mmh.
Donc on a envie d'examiner un petit peu cette question du réchauffement climatique sur lesquels tous nos confrères des grands médias semblent tomber d'accord aussi bien rapidement. Donc on va examiner cette question-là d'un petit peu près.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on examine d'autre ? J'ai pas préparé ça du tout, mais je vais tout de suite jeter.
Allez-y. Ou de toute façon, déjà pour le prochain gros dossier, c'est le réchauffement climatique, ce qui est déjà ou l'écologie.
C'est déjà un gros dossier. Ce thème du réchauffement climatique, effectivement, ça on va le traiter. On peut pas ne pas le faire, étant donné le battage, matraquage qui a lieu autour de ces questions.
Très bien.
On est aussi en préparation j'avais oublié ça. On va s'intéresser aussi très certainement dans un prochain numéro à l'intelligence animale et à ce que représente l'intelligence animale pour nous, les humains. Qu'est-ce qu'elle a représenté au fil de notre histoire et en quoi nos rapports avec cette intelligence animale avec lesquels on partage finalement l'écrasante majorité de notre du génome.
Quels sont les points communs, les passerelles, les échanges,
les passerelles qui sont faites et il y en a de nombreuses aujourd'hui en termes d'intelligence qui sont passionnantes.
Mm-hmm.
Et puis un autre thème, c'est la mécanique quantique, la physique quantique, de regarder un petit peu la physique quantique et de voir ce que la physique, les ponts qui existent entre physique quantique et spiritualité et mysticisme et philosophie. Car la physique quantique apporte vraiment des réponses. Curieusement, dépeint un univers qui est beaucoup plus humain que ne l'était celui de
la physique traditionnelle. Très bien.
De la relativité de Einstein.
Ouais. Merci beaucoup, David Donnery, en tout cas, de nous avoir accordé autant de votre temps. Et puis,
merci beaucoup à vous.
Je vous en prie. Rendez-vous donc déjà dans les kiosques avec Nexus, donc le numéro de janvier-février qui est disponible.
Merci.
Le numéro 54. Et puis, bon vent, à très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Merci, au revoir.
Je vous en prie, au revoir.
Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi, sur Sud Radio.
C'est fini pour les aventuriers de l'étrange pour cette semaine. Du moins, on se retrouvera bien entendu vendredi et samedi prochain, juste après les matchs de rugby aux alentours de 22h20, 22h30 jusqu'à minuit avec d'autres dossiers qui, je l'espère, vous passionneront. 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez me contacter si vous avez vécu un phénomène paranormal. Vous me laissez votre message et vos coordonnées, évidemment, pour que je puisse vous rappeler sur ma boîte vocale, les aventuriers de l'étrange, ou encore, vous pouvez m'écrire par mail étrange@sudradio.fr. Merci à Christophe Belli qui a réalisé cette émission, Pierre Massias qui m'aide à la construire. Passez une bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et puis à vendredi prochain.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi sur Sud Radio.